Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Bonsoir à toutes et à tous. À Ramallah et à Gaza, des proches de prisonniers qui devaient être libérés aujourd'hui par Israël attendent toujours. Les autorités israéliennes ont retardé leur libération. Le Hamas dénonce une violation de l'accord de trêve alors qu'un peu plus tôt ce samedi, 6 otages israéliens ont été relâchés. Associated Press, la plus grande agence de presse américaine, attaque en justice plusieurs hauts responsables de l'administration Trump, AP, bannis depuis 10 jours des événements présidentiels. Cette nouvelle tentative de parvenir à un compromis après l'échec de la COP16 sur la biodiversité, on y revient dans un instant. Et puis, retour à la fin de cette édition sur ce documentaire sur Brian Jones, le fondateur des Rolling Stones, disparu un peu trop tôt. Moment de joie et de soulagement pour leur famille et toute la nation. Ce sont les mots du Premier ministre israélien qui s'est félicité ce samedi de la libération de 6 otages détenus à Gaza. Benjamin Netanyahou dit qu'il agira avec fermeté afin de ramener tous les otages encore captifs dans la bande de Gaza. Il tient ce soir une réunion de sécurité. Les autorités israéliennes qui ont décidé de retarder la libération des détenus palestiniens à Ramallah. La nuit est tombée, mais des centaines de personnes attendent toujours le retour des leurs, des familles de détenus, mais aussi des anonymes rassemblés devant le centre culturel de la ville. Écoutez le témoignage de cet homme recueilli par notre envoyé spécial Pierre-Olivier.
Le peuple palestinien et les prisonniers demandent la liberté. C'est pour ça que vous voyez ce rassemblement et tant de monde. C'est un jour palestinien, un jour de victoire, un jour de joie. Nos prisonniers sont libérés après la souffrance de tout un peuple. Plus de 50 000 martyrs et la bande de Gaza rayée de la carte. Les prisonniers ont donné une partie de leur vie pour la liberté et maintenant le peuple doit être là pour eux. Du côté israélien, on a vu que tout un peuple se réunissait pour la libération de 3 prisonniers. Alors que nous avons 10 000 prisonniers, donc c'est ce qu'on doit faire, être ensemble, tous ensemble. De l'autre côté, les Israéliens ont passé 480, 500 ou 504 jours en détention. Nous avons des prisonniers qui ont passé 45 ans chez eux. Alors c'est notre devoir de venir les accueillir.
Et aujourd'hui, dans la bande de Gaza, une nouvelle campagne de vaccination contre la polio a débuté. Une opération qui doit permettre de vacciner près de 600 000 enfants de moins de 10 ans. 2 campagnes de vaccination avaient été menées en fin d'année dernière. La polio, maladie très contagieuse, était réapparue pour la première fois depuis 20 ans. La situation humanitaire et sanitaire qui reste désastreuse dans l'enclave palestinienne, ravagée par 15 mois de guerre. Aux États-Unis, les tensions entre la presse et la Maison-Blanche sont loin de s'apaiser, bien au contraire. Associated Press, la plus grande agence de presse américaine, attaque en justice plusieurs hauts responsables de l'administration Trump. À Washington, les précisions de Guillaume Notin.
See you in court, on se verra au tribunal, c'est un classique dans le fonctionnement de la société américaine et c'est une habitude depuis le début de la deuxième présidence Trump. Ce qui est moins habituel, c'est que la chef de cabinet de la Maison Blanche, son adjoint et la porte-parole de la présidence soient attaqués en justice par un grand média au sujet de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, qui sont jusqu'ici des valeurs cardinales aux États-Unis. C'est bien de cela qu'il s'agit. Ce que AP reproche à la Maison Blanche, c'est d'être exclu des événements présidentiels depuis 10 jours, que ce soit à Washington, à Mar-a-Lago ou entre les deux à bord de l'avion présidentiel Air Force One. L'administration punit AP parce que l'agence ne reprend pas à son compte la nouvelle appellation Golfe d'Amérique au lieu de Golfe du Mexique, comme le président l'a décrété unilatéralement. La presse et les Américains ont le droit de choisir leurs mots sans être punis par le gouvernement, dit la plainte, qui indique qu'il s'agit d'une attaque directe contre le premier amendement de la Constitution. Jeudi, Donald Trump a expliqué lui-même que l'exclusion d'AP continuera tant que l'agence ne se pliera pas à son injonction. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Cette fin de non-recevoir de Volodymyr Zelensky à Donald Trump, le président ukrainien n'est toujours pas prêt à signer un accord avec les États-Unis sur les minerais rares. Donald Trump veut avoir accès à 50% de ces minerais stratégiques en compensation de l'aide américaine déjà fournie à Kiev, des conditions inacceptables pour l'Ukraine qui exige un accord équitable. Cette manifestation aujourd'hui à Londres en soutien à l'Ukraine, près de 3 ans après le début de l'invasion russe dans le pays. Le président ukrainien a salué aussi le leadership de Londres dans ce conflit. Le premier ministre britannique Keir Starmer doit se rendre la semaine prochaine à la Maison Blanche sur fond de désaccord entre les Européens et Washington sur cette question. Les Européens qui craignent que Donald Trump ne mette fin à la guerre dans des conditions favorables à la Russie et s'enfourdir l'aide, les garanties à l'Ukraine, les garanties nécessaires pour sa sécurité. Une seconde chance pour conclure la COP 16 biodiversité, ce sera la semaine prochaine à Rome. Tout début novembre, cette grande conférence des Nations Unies s'était conclue sans compromis. Alors avant ce nouveau grand rendez-vous, la présidence colombienne de la COP 16 a soumis hier une nouvelle proposition. Pauline Glaise, que prévoit cette note de travail ?
La présidence colombienne de la COP 16 a ébauché une solution médiane. Elle propose une réforme d'ici 2030 des flux financiers pour la sauvegarde de la nature, des flux qui doivent atteindre 200 milliards de dollars par an d'ici 2030. Alors, selon un observateur, le texte ne répond toujours pas à la question de la provenance des fonds, mais il organise un travail multilatéral pour le définir d'ici 2030. Quelques éléments de réponse néanmoins. Le nouveau document prévoit d'améliorer les performances du Fonds mondial pour l'environnement. Il est également envisagé de désigner ou d'établir un ou des instruments mondiaux sur le financement de la protection de la nature et à terme, au moins l'un de ces instruments devrait être placé sous l'autorité de la Convention sur la diversité biologique. C'est une revendication majeure des pays en développement car ils réclament plus d'équité et de transparence dans l'accès au financement. Alors cet objectif peut-il être atteint par la réforme des outils existants ou est-ce que cela poserait les prémices d'un nouveau fonds ? Cette hypothèse braquerait les pays riches. Le dernier texte sur la table à Cali en prévoyait un, mais les grandes puissances y voient une fragmentation de l'aide au développement.
Et les nouvelles négociations se tiendront donc de mardi à jeudi prochain. Après l'attaque au couteau au mémorial de l'Holocauste hier à Berlin, un homme arrêté, un réfugié syrien, est soupçonné d'avoir voulu commettre un acte antisémite. L'homme de 19 ans, arrêté quelques heures après les faits, aurait mûri le projet de tuer des juifs depuis plusieurs semaines, selon les autorités allemandes. La ministre allemande de l'Intérieur a dénoncé un crime odieux. En France, Emmanuel Macron a inauguré aujourd'hui le salon de l'agriculture. Le chef de l'État qui a voulu rassurer les agriculteurs en affichant son opposition à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Un projet d'accord que dénoncent les exploitants français et qui avait suscité leur colère à l'automne dernier. Au cinéma, ce documentaire sur la courte carrière de Brian Jones, le fondateur des Rolling Stones, un des plus célèbres groupe de rock de la planète, un film signé Nick Broomfield et qui revient donc sur la vie du guitariste mort à 27 ans en 1969, Isabelle Chenu.
Brian Jones et les Rolling Stones est une plongée dans le tourbillon du swinging London des années 60, au plus près de 5 garçons aux cheveux longs qui allaient devenir les plus grandes stars du rock mondial. Parmi eux, Brian Jones, guitariste amateur de blues, leader de la formation, beau gosse, issu de la bourgeoisie, renié par sa famille. C'est lui qui a recruté un chanteur encore inconnu, Mick Jagger, et un guitariste, Keith Richards. Il les héberge dans son studio miteux. Ils deviendront, en quelques années, des icônes riches et célèbres. Qu'est-il arrivé à Brian Jones, génial et fragile, paranoïaque, dévasté par la drogue, père de 6 enfants en 9 ans, tous nés de mères différentes ? Nick Broomfield, le réalisateur, a eu accès à des archives inédites, à des témoignages de proches. Il brosse le portrait d'un éternel insatisfait à l'autodestruction programmée. À 26 ans, il n'est presque plus en état de jouer. Mick Jagger et Keith Richards ont pris l'ascendant dans le groupe. Le 3 juillet 1969, il est retrouvé en overdose, noyé dans sa piscine. Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Voilà ce documentaire sur la carrière de Brian Jones, le fondateur